Voici une traduction en français de la conférence numéro 6001C02 SMC5 intitulée Le mariage. Il s'agit d'une conférence donnée par Elron Hubbard le 2 janvier 1960 aux délégués venus assister au congrès de l'État de l'homme. Copyright 1960-1982, Elron Hubbard, tout droit mondial de reproduction réservé. Bonsoir. Eh bien, pas de doute, nous sommes en train de remporter victoire sur victoire, et il est certain que nous finirons par gagner si nous tenons le coup, et si nous ne laissons pas tomber. Et je vais montrer l'exemple. Je n'ai pas laissé tomber. Si nous suivons tous cet exemple, nous l'emporterons. Et l'un des problèmes auxquels nous nous heurtons, ce n'est pas tellement le fait que certaines personnes quittent soudain nos organisations, mais plutôt... Eh bien, je vais vous parler en détail de la deuxième dynamique. Ça vous dit ? Le mariage. Vous avez envie que je vous parle du mariage ? Très bien. Vous pouvez à présent sauver plus de mariages par quartier qu'il n'a jamais été possible de le faire. Jetons un coup d'œil au mariage. Notre taux de mariage brisé est probablement moins élevé que celui du monde en général, mais il est trop élevé, beaucoup trop élevé. Il ne devrait pas être aussi élevé. Il y a eu beaucoup de mariages qui ont tenu contre vents et marées en scientologie, mais ces personnes méritent un coup de chapeau, parce qu'il est arrivé que ce soit vraiment contre vents et marées. Et je vais maintenant vous faire part d'un petit secret. Mary Sue et moi sommes mariés depuis 8 ans maintenant. Un jour, il y a 8 ans, nous sommes allés dans l'Oklahoma. Et nous avons arrangé cela, nous sommes mariés. Et ça a été intelligent de ma part de l'épouser. Et peut-être que ça n'a pas été intelligent de sa part d'épouser quelqu'un comme moi. Quoi qu'il en soit, si vous regardez, eh bien vous verrez que... Je ne suis pas le philosophe, dans sa tour d'ivoire, qui parle de choses dont il ne connaît rien. Je crois que c'était la condition à remplir jadis pour devenir philosophe ou conseiller. Il fallait qu'il n'ait absolument aucune expérience du sujet à propos duquel il donnait des conseils. Je me rappelle, quand j'étais président de l'Association des auteurs de fiction américains, à New York, j'étais un gamin à l'époque, c'est vrai, j'étais un gamin, et il y avait quelque chose que je trouvais très drôle. J'étais obligé de me tenir les côtes tellement ça me faisait rire. Toutes les histoires d'amour écrites aux États-Unis étaient écrites par des vieilles filles qui avaient la quarantaine ou la cinquantaine bien sonnée. Je veux dire, il n'y a rien de mal à être une vieille fille et d'avoir la quarantaine ou la cinquantaine bien sonnée. Rien de mal du tout. Mais d'où sortaient-elles toutes ces histoires d'amour ? Intéressant, non ? Et c'était intéressant parce que ces histoires étaient contemporaines. Je sais maintenant qu'elles tiraient leurs histoires de leur vie passée. Elles prenaient telle histoire de la piste totale, qui est l'enregistrement moment après moment de l'existence d'une personne dans cet univers, sous forme d'images et d'impressions. Donc elles prenaient telle ou telle histoire de la piste totale, et elles l'adaptaient au XXe siècle. Mais en fait, elles écrivaient quelque chose dont elles ne savaient rien dans cette vie-ci. Et les conseils qu'elle donnait à la jeune génération reposaient sur aucune expérience de cette vie-ci. Et il est possible de donner des conseils dans un domaine dont on ignore tout. C'est très facile. En fait, c'est l'une des choses les plus faciles qui existent. L'homme n'arrête jamais de le faire. Toujours est-il qu'un jour, j'ai déjeuné avec quelques-unes de ces vieilles filles, et après je les ai invitées chez moi pour prendre quelques verres, et je leur ai donné quelques conseils. Quelques conseils sur le métier d'écrivain. Ça les a mis dans tous leurs états. J'étais l'un des vieux champions de vitesse de l'écriture. J'étais capable de m'asseoir et d'accoucher de 5 à 10 000 mots par jour. Puis j'envoyais le tout et je touchais mon chèque. Je détenais le record de 94% de manuscrits acceptés du premier coup. J'avais 15 millions de mots qui avaient été imprimés. Donc voilà qui était de la bonne et de la solide production. Et c'est avec ça que j'ai pu financer une bonne partie de mes recherches, ainsi que le café et les biscuits pour le goûter. Toujours est-il que ces demoiselles étaient assises là, avec moi, et je leur ai dit « Moi, vous savez, vous touchez de sacrées sommes avec vos histoires d'amour. Je devrais en écrire aussi, moi. » Et elles ont fait. Et puis je les ai laissées là, avec ma bouteille d'alcool, et je suis monté. J'ai écrit une histoire d'amour, et Bernard McFadden, l'éditeur, m'a donné $1000 pour cette histoire. Une histoire du genre « Oui, je me souviens, je n'étais qu'une jeune fille naïve et sans expérience, et lui n'était qu'un coureur de jupons, mais il était si beau. » Vous voyez le genre? Très très facile à écrire, très facile. Et c'est là que j'ai vu que vous pouviez faire des choses dont vous ignoriez tout. Ces choses ne valaient pas forcément grand-chose, mais en tout cas, vous pouviez les faire. C'était presque aussi aventureux que se marier. Car lorsque vous vous mariez, vous faites quelque chose dont vous ignorez tout. Vous avez déjà pensé à cet aspect de la chose? Ce genre de choses, je me jette à l'eau pour toute la vie. Oui. Et quand vous vous mariez une deuxième fois, d'habitude, vous en savez encore moins que la première fois. Maintenant, il existe des guides du mariage, j'en ai vu plusieurs, ils ont tous été écrits par des célibataires ou des gens qui n'ont pas été mariés. C'est comme avec les livres pour jeunes mamans qui traitent du soin des bébés, la plupart sont écrits par des célibataires. Le mariage est une barque intéressante à mener. Ce n'est pas une activité de troisième dynamique, la troisième dynamique qui est l'impulsion à assurer la survie du groupe. Et pourtant, c'est quand même un peu une activité de troisième dynamique. Généralement, au bout d'un temps, le mariage cesse d'être une activité de deuxième dynamique, mais il doit rester une activité de deuxième dynamique, et il doit rester une activité de deuxième dynamique. Et on retrouve l'origine du mariage au tout début de la piste totale, association de tétans. Et en scientologie, on appelle l'esprit tétan. Un tétan n'a ni masse, ni longueur d'onde, ni énergie, ni temps, ni position dans l'espace, si ce n'est par considération ou postulat. Et ce mot vient de la lettre grecque tétha, qui signifie pensée, vie ou esprit. Donc au tout début de la piste, les tétans ont très souvent eu pour idée de se faire le mock-up l'un de l'autre, pour être frère ou pour être une famille ou quelque chose comme ça. Et un mock-up, c'est une image créée par le tétan ou pour le tétan, qui n'est pas une photographie de l'univers physique. Et de cette façon, ces tétans étaient tous parents, cousins, sœurs, oncles, mères, pères. En fait, les pères et les mères sont apparus plus tard sur la piste. Avant, il s'agissait simplement d'une confrérie de tétans. Et cette prétendue association familiale marchait rarement parce que tout le monde savait très bien qu'il ne formait pas vraiment une famille, qu'il faisait semblant, que c'était une fausse relation. Et cette idée, comme quoi la relation est fausse, comme quoi elle n'existe pas vraiment, subsiste dans les familles modernes. Il est très facile de briser une famille parce qu'il n'y a pas vraiment de relation dans une famille, si ce n'est une prétendue relation. Réfléchissez-y un moment. Vous soutenez une idée qui ne peut pas exister. Mais un tétan n'a jamais été la fille d'un autre tétan. Aucun tétan n'a été le père d'un autre tétan. Peu importe ce que dit la Bible. Mais c'est la stricte vérité. Chaque fois que vous avez une relation qui n'est pas inhérente ou fondée sur une vérité immédiate et directe, il vous faut travailler pour l'entretenir. Je ne veux pas dire que le mariage est une relation fausse. Dans notre société contemporaine, une famille est l'unité d'auto-perpétuation et d'auto-protection la plus solide qui existe. Et, dans notre société contemporaine, la famille est l'unité d'auto-perpétuation et d'auto-protection la plus solide qui existe. Et c'est quelque chose d'indispensable pour la société, pour des raisons économiques et autres. Je veux dire, pour la société telle qu'elle est conçue à l'heure actuelle. Et celui qui détruit le mariage détruit la civilisation. Ça, vous pouvez en être sûr. C'est pourquoi les communistes essayent de détruire la famille avec tant de force à l'heure actuelle. Et une culture s'effondrera si sa fondation, c'est-à-dire la famille, est supprimée. Mais ce n'est pas une raison pour faire des bêtises et s'imaginer des choses en ce qui concerne cette relation, en ce qui concerne le mariage. Fondamentalement, cette relation est une relation postulée. Un postulat, c'est une pensée autodéterminée qui met en route, change ou arrête des efforts passés, présents ou futurs. Ce n'est pas une relation vraie, c'est une relation postulée. Et quand les gens cessent de la postuler, elle cesse d'exister. Et c'est ce qui se passe avec la plupart des mariages. Les gens cessent de faire le mock-up de l'unité familiale, et dès qu'ils cessent de le faire, l'unité familiale cesse d'exister. Voyez ce qui se passe avec les mariages. Et ce n'est pas dans l'autre sens que ça se passe. Ce n'est pas parce que tous les hommes sont méchants et qu'ils deviennent infidèles, ce qui dissout le mariage et le fiche en l'air. Non, ce n'est pas ça, c'est faux. Le contraire est vrai. C'est-à-dire, quand vous avez une relation qui n'est rien d'autre que postulée, et qui en fait n'existait pas vraiment, vous devez sans cesse la créer. Et une famille qui ne continue pas de se créer elle-même, de créer sa propre existence, cessera d'exister en tant que famille. C'est à peu près tout ce que vous avez à savoir sur le sujet. Maintenant, dès l'enfance, les gens de cette société ont cette formule extraordinaire avec laquelle ils ont des ennuis, ils ont partout dans le monde des difficultés énormes, ils ont des difficultés avec, car c'est une formule basée sur un automatisme. Les gens pensent que cette relation va automatiquement tenir le coup, sans aucun effort de leur part. Jamais je n'ai vu ce fait se vérifier. Cette relation ne tiendra pas le coup automatiquement, je peux vous l'assurer. Maintenant, dans les familles, il y a des expériences malheureuses. Le père, par exemple, prend son rôle très au sérieux, il est l'arbitre de la destinée de toute sa famille, il faut complètement se soumettre à lui. En fait, dans les familles grecques et romaines, le père avait droit de vie ou de mort sur sa famille. Il pouvait ordonner l'exécution de n'importe quel membre de sa famille. Il devait avoir pas mal d'ennuis. Vous vous demandez combien d'ennuis les sociétés passées ont eu? Eh bien, regardez les lois qu'elles ont dû voter. La dureté d'une loi est directement proportionnelle aux ennuis qu'a une société. Vous croyez que les puritains étaient purs, hein? Eh bien, étudiez un peu toutes leurs lois. Lorsque les gens n'ont aucun mal à venir à bout du crime, ils ne prennent aucune précaution contre lui. Mais quand ils ont vraiment du mal à venir à bout du crime, ils votent tout un tas de lois. Ça, vous pouvez en être sûr. Bien. Maman décide qu'elle s'est fait avoir et qu'elle aurait dû épouser l'autre gars. Ce qui est évident. Papa et maman ne s'entendaient pas bien, ou peut-être qu'ils s'entendaient bien, admettons qu'ils ne s'entendaient pas bien. Et vous avez jeté un coup d'œil à tout ça et vous vous êtes dit, regardez-moi ça, cette institution qui n'est pas inhérente à chacun, mais ça ne changera jamais, ne se perpétue pas et ne vaut pas grand-chose. Bah oui, regardez, ça ne tient pas le coup. Vous avez essuyé un échec. Quand vous étiez petit, vous avez probablement essayé de postuler l'unité familiale, vous avez essayé de contribuer à la créer, vous avez essayé de postuler l'unité de cette famille, vous avez essayé de réparer les pots cassés d'une façon ou d'une autre, vous avez essayé de faire que papa aime maman, vous avez essayé de leur montrer qu'ils avaient quelque chose pour lequel vivre, etc., etc. En fait, l'une des raisons pour lesquelles vous avez souffert est que vous avez fait prendre conscience à papa et à maman qu'ils avaient une responsabilité vis-à-vis de la famille. Les maladies infantiles et tout ce genre de choses viennent directement de troubles familiaux. Regardez bien quand vos maladies ont commencé. Donc peut-être avez-vous subi quelques échecs. Parce qu'il est plutôt difficile, quand vous avez un tout petit corps, de créer un effet sur de grands corps. En fait, vous étiez probablement quelqu'un avec qui il fallait compter. Peut-être que vos parents ont été un bon exemple. Peut-être que non. Mais permettez-moi de vous indiquer que ça n'a rien à voir avec le fait de savoir si oui ou non, vous pouvez créer un mariage. Parce que l'exemple que vous avez eu devant les yeux ne savait pas comment l'homme ou la femme, comment l'homme ou la femme fonctionnait ou quelle était leur nature. Donc, si vos parents ne savaient pas ça, comment vouliez-vous qu'ils fassent autrement que trébucher tous les 200 mètres ? D'une façon ou d'une autre, la route était plutôt difficile à parcourir pour eux. Donc rendez-vous compte que le mariage est quelque chose dont vous devez postuler l'existence et dont vous devez sans cesse faire le mock-up. Et quand vous cesserez de faire cela, eh bien le mariage cessera aussi. Mais comme les choses sont conçues de façon à ce que le mariage continue, alors que vous n'essayez pas de le faire continuer, il va bien sûr s'en suivre une destruction. Et si vous connaissez la technologie dont je vous ai parlé durant ce congrès, vous pourrez faire durer n'importe quel mariage, ou bien recouvrer n'importe quelle facette d'un mariage, ou réparer les pots cassés comme vous le voudrez. Ça demande un peu de travail et un peu de cran, et encore quand je dis ça, je suis loin de la vérité. Maintenant, Mary Sue et moi, nous avons travaillé à la question pour avoir une meilleure vue du problème et pour voir si nous avions tous les deux quelque chose à réparer, parce que jusqu'à présent tout avait marché comme sur des roulettes entre nous, comparé à la plupart des mariages. Nous avons décidé de prendre cette nouvelle technologie et de l'appliquer à la lettre, de remettre les choses en ordre, de nettoyer tous les overts et toutes les retenues. Les overts, ce sont des actes nuisibles commis sciemment pour résoudre un problème, et les retenues, ce sont des actes nuisibles non révélés. Voyez, nous voulions nettoyer tout ça, vite fait, bien fait, bing, bing. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a été terrible. Pourtant, il n'y avait trois fois rien, et nous nous sommes pratiquement arrachés les yeux pendant une semaine. Et je me suis dit, eh bien, maintenant, je vois comment cette technologie fonctionne. Elle fonctionne bizarrement. Et je me suis dit, si Mary Sue et moi, qui n'avons pas vraiment de problème, qui n'avons pas vraiment d'overt ou de retenue digne d'intérêt, pouvons en arriver à nous battre comme des chiffonniers, je me demande comment ça va se passer avec le pauvre gars là-bas à Trifouilly-les-Oies qui essaye de rafisteler son mariage avec sa femme. Comme je l'ai dit, nous n'avions trois fois rien, Mary Sue et moi, des overt et des retenues, comme par exemple ce qu'avaient coûté les cadeaux de Noël, oui, des retenues concernant les cadeaux de Noël, vous voyez le genre de choses, des pensées critiques, de temps à autre, oui, des pensées peu charitables, du genre, moins, il ne pense plus à son préclair qu'à moi, il a encore audité toute la nuit, vous voyez le genre, gna gna gna. Et nous avons découvert quelque chose de fabuleux, nous avons découvert que nous nous adorions. Donc nous avons nettoyé tout ça, et je dirais que c'est très difficile de postuler un mariage. Ça ne me fait pas spécialement plaisir d'aborder un sujet aussi personnel, peut-être que vous en serez un peu bouleversé, j'espère que non, mais je ne suis pas d'humeur à retenir quoi que ce soit par rapport à vous ce soir. Voilà. Et un mariage qui s'est brisé, à cause d'overt et de retenue, au point où le mari et la femme se sont séparés, eh bien un tel mariage est presque impossible à recréer en postulant simplement son existence. Quand un couple s'est séparé, il doit se déséparer, si je puis dire. C'est très beau cette histoire de... Bien, par exemple, par une belle journée de juin, tout est soudain devenu beau et merveilleux, cuit, 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 les petits oiseaux qui chantaient dans les arbres. Il y avait ce beau garçon, ou peut-être qu'il n'était pas si beau que ça, et vous avez cette belle jeune fille, peut-être qu'elle n'était pas si belle que ça d'ailleurs, et ils se rencontrent et ils disent « Nous resterons ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Quelque chose comme ça, vous voyez. Et ils pensent avoir un mariage, hein ? Eh bien, ils n'ont même pas commencé. Maintenant, ils vont découvrir la tête qu'ils ont le matin au petit déjeuner. Vous pensez que c'est lié à la deuxième dynamique ? Pas du tout. C'est plutôt lié à une histoire de produits de maquillage et de lames de rasoir. Et la deuxième dynamique, je vous le rappelle, c'est l'impulsion à survivre par le sexe. Cette dynamique comprend l'acte sexuel lui-même et le noyau familial, y compris l'éducation des enfants. Donc, ce couple doit apprendre maintenant à vivre ensemble, si possible. Et dans une certaine mesure, en se mariant, ils ont tiré un trait sur ce qu'ils faisaient avant. Ils ont tiré un trait sur leur passé, plus ou moins par un accord tacite. Et voilà donc leur point de départ. C'est ce qui se passe à partir de ce moment-là qui compte. Mais parfois, ils retiennent si violemment les choses qu'ils ont faites avant que leur mariage ne commence même pas. 48 heures plus tard, leur mariage n'est plus qu'un monceau de ruines. Pourquoi ? Trop d'overt et de retenue avant même qu'ils ne se soient rencontrés. Eh bien, même ce mariage-là peut être sauvé, même celui-là.
Mais que dire du mariage qui continue péniblement depuis des années et des années ? Les overts se sont accumulés et accumulés, les retenues se sont accumulées et accumulées, et ils se sont finalement séparés. Vous savez, la tradition veut qu'au bout de 3 ans, la femme et le mari ne s'aiment plus. C'est plus ou moins écrit dans les manuels de mariage, tous les psychologues savent ça. 3 ans, hein ? Comment se fait-il alors que certains mariages tiennent toujours au bout de 10 ans ?
Eh bien, le mari et la femme ont appris plus ou moins à se supporter. Et tous deux sont en propitiation vis-à-vis l'un de l'autre. Ils s'entendent tant bien que mal, et préfèrent que ce soit comme ça plutôt qu'autrement. Ils préfèrent être mariés que pas mariés. Ils pensent qu'ils ne se débrouillent pas trop mal. Ils ne pensent plus tellement au garçon ou à la fille qu'ils auraient dû épouser à la place. Leur mariage marche tant bien que mal. Eh bien, dans ce mariage, nous pourrions introduire l'explosif le plus explosif qui soit. Nous pourrions nettoyer ce mariage. Et ça marcherait. Par exemple, un divorce ou une attirance pour quelqu'un d'autre ou le fait de se retrancher sur soi-même, eh bien tout cela est uniquement dû à trop d'overt et de retenue contre le partenaire conjugal. Un point, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et toutes ces tensions, et tous ces départs, et tous ces « je ferais mieux de partir », tous ces « je ferais mieux de ne pas rester », et tous ces « je ferais mieux de faire autre chose », tous ces « nous devrions nous séparer » ou « je serais mieux loti si nous n'avions pas eu l'idée de nous marier », vous savez, gna 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 gna, eh bien tout ça, toutes ces raisons viennent directement des overt et des retenues du partenaire qui avancent ces raisons. Vous voyez ? Toutes ces raisons viennent directement des overt et des retenues du partenaire qui avance ses raisons. Des overt et des retenues qu'il a contre son partenaire conjugal. En fait, ce qu'il essaye de faire, c'est protéger son partenaire conjugal contre sa propre méchanceté. Voilà à la base ce qu'il essaye de faire. Je ferais mieux de partir. Nous ferions mieux de nous séparer. Ou encore, nous ferions bien de nous calmer un peu. Et ça, c'est ce qui vient avant qu'ils décident de se séparer, nous calmer un peu. D'habitude, ce « il faut nous calmer » se produit, oui, il se produira d'habitude, ce « il faut se calmer ». Eh bien, nous pouvons prendre toutes ces choses et les décalmer. Vous prenez l'un de ces électromètres, un électromètre qui est un appareil électronique qui sert à mesurer l'état mental des individus ou bien leur changement d'état. Donc vous prenez l'un de ces électromètres, vous le plantez devant le partenaire conjugal, vous lui donnez les boîtes et vous dites « Bien, Georges » ou « Agnès ». Voici l'heure de la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. On va arranger le problème. Il y a un procédé, une technique, il y a un procédé qui fait très mal, qui n'est pas particulièrement conseillé, mais qui est extrêmement efficace. Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu retenu ? Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu retenu ? Qu'as-tu fait ? Et pas forcément que m'as-tu fait, hein ? Eh bien voilà un procédé qui fait mouche et qui fait très mal. Il mène la personne dans toutes les dynamiques, mais si vous essayez de nettoyer un mariage, vous demanderiez « Qu'est-ce que tu m'as fait ? en respectant tout le temps le code de l'auditeur. Mais qu'est-ce que tu as retenu par rapport à moi? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu as retenu par rapport à moi? Et il y a une chose à laquelle vous devez vraiment faire attention, et rappelez-vous, à chaque fois, que vous trouvez un gros overt ou une grosse retenue, eh bien rappelez-vous d'auditer la responsabilité sur cet incident. De quelle partie de cet incident pourrais-tu être responsable? De quelle partie de cet incident pourrais-tu être responsable? Quelque chose comme ça. Et le lendemain, vous permutez. Vous inversez les rôles. Et je peux vous dire que vous n'allez pas vous parler pendant plusieurs jours. Mais le plus drôle, c'est que vous commencerez à sortir les griffes, tous les deux, uniquement quand vous, en tant qu'auditeur, avez commis une erreur. L'auditeur, je vous le rappelle, c'est quelqu'un qui est qualifié pour appliquer les procédures scientologiques à quelqu'un en vue de son amélioration. Quand vous avez subi un échec en tant qu'auditeur, quand ce genre de choses se produit, eh bien tout se met à aller de travers. Mais tant que vous êtes efficace, que les choses progressent, que vous avez des gains, vous ne risquez rien. Rien du tout. Mais si soudain, l'autre détourne la question et vous convainc de ne pas auditer ce que vous devriez être en train d'auditer, convainc de passer à autre chose, mais vous allez avoir l'impression d'être dans un méli-mélo inextricable, vous retrouvez en train d'auditer un incident où l'autre était esclave sur une galère phénicienne, ce qui n'a absolument rien à voir avec le mariage. Par contre, une fois tous les 36 du mois, vous allez vraiment avoir un incident qu'il faudra auditer absolument, mais c'est rare. Par exemple, votre partenaire conjugal n'arrête pas de vous parler de lacets. Ces lacets reviennent tout le temps. Oui, je sais, j'ai retenu par rapport à toi le fait que j'avais remarqué que tes lacets étaient fichus et que tu avais fait un nœud pour les rafisteler. Et cet incident revient tout le temps. Oui, tu sais, tes lacets étaient fichus et j'aurais dû m'en occuper, puis en fait, t'aurais dû t'en occuper, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lacets? Qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, nous ferions bien d'auditer ça. De voir d'où ça vient. De voir d'où vient cette histoire de lacets. Et nous découvrons qu'il y a trois vies, il s'était pendu dans la prison du comté avec des lacets cassés ou quelque chose comme ça. Toujours est-il que si vous faites du bon travail, tout ira bien. Tout ira bien tant que vous ferez du bon travail. C'est seulement quand vous laissez l'autre personne détourner la question que le mécontentement régnera. Il y a une formule pour ce genre de choses. Un couple qui sait auditer devrait prendre un électromètre. Vous avez vraiment besoin d'un électromètre à l'heure actuelle. Impossible d'auditer sans électromètre. Et quand je dis impossible, je dis impossible. Et bien sûr, un électromètre, c'est de la dynamite, dans le monde des affaires, par exemple. Vous arrivez dans telle ou telle compagnie et vous découvrez tous les criminels qui y travaillent, vous remettez de l'ordre ici et là, puis vous allez voir le patron et vous lui dites « Très bien, mon vieux, maintenant, dites-moi ce que vous retenez. » Et il dit « Mais, je ne vais pas dire que vous deviez me tirer les vers du nez à moi. » Et vous allez, un petit effort. Bon, très bien. Puis zut, à la fin. Bon, je n'ai pas détourné de fond, si vous voulez le savoir. Voyez, vous pourriez faire passer toute une compagnie à l'électromètre, à l'heure actuelle, et elle prospérerait considérablement. Avant de la fin de ce congrès, je vous dirai comment faire passer un gouvernement à l'électromètre et lui tirer ses overts et ses retenues. Mais pour en revenir au mariage, eh bien vous avez besoin de l'un de ces engins, l'un de ces électromètres, pour vraiment tirer les vers du nez au partenaire. Pas vraiment parce que l'autre personne retient des choses énormes, non, mais parce que très souvent, elle n'a pas le courage de vous en parler tant que l'électromètre ne vous a pas indiqué que la retenue existe. Sans électromètre, vous ne réussirez pas à nettoyer tous ces overts et toutes ces retenues.
Un point, c'est tout.
De plus, sans électromètre, vous ne saurez pas combien de temps auditer la chose. Vous l'auditez jusqu'à ce que le tonarme, qui est la manette de l'électromètre qui indique que la charge mentale, qui indique la charge mentale de la personne, donc, vous auditez la chose jusqu'à ce que le tonarme se trouve à 2, dans le cas d'une femme, ou à 3, dans le cas d'un homme. Vous vous servez du tonarme de l'électromètre. Et pas de l'aiguille. C'est le tonarme qui vous indique si l'auditing des overts et des retenues est aplani. Par aplani, j'entends qui ne produit plus de changement, qui n'a plus de charge. Et je vais vous fournir une donnée, comme ça, en passant. Si vous auditez l'une de ces techniques qui a trait à la responsabilité, ou toute technique voisine, vous obtiendrez d'excellents résultats. Ce sont de bonnes techniques. Pour un homme, vous auditez l'incident en question jusqu'à ce que le tonarme se trouve à 3 de façon stable. Et pour une femme, jusqu'à ce que le tonarme se trouve à 2 de façon stable. Et ne change plus. Vous l'auditez jusqu'à ce que le tonarme se trouve à 3 ou à 2, selon le cas, de façon stable. Sinon, l'incident ne sera pas aplani. Vous pouvez prendre n'importe quoi chez un cas et l'auditer jusqu'à ce que le tonarme se trouve à 3 ou à 2, selon qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Voyez, vous vous servez du tonarme. Et vous savez que vous avez un incident chargé ou quelque chose de chargé chez un cas parce que le tonarme monte. Pas l'aiguille. Au diable, l'aiguille, au diable. Je parle du tonarme. Nous nous intéressons uniquement aux incidents qui ont une charge telle qu'ils font bouger le tonarme. Pigé ? Bien. Je veux dire, ces choses insignifiantes qui font à peine frémir le tonarme ou l'aiguille, vous savez, tic, 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 eh bien, elles pourraient uniquement aberrer quelqu'un qui est déjà fou. C'est tout. Oui, il y a ce frémissement de l'aiguille et vous demandez « À quoi as-tu pensé ?» Non, non, c'est très mauvais de faire ça, c'est pas ça que vous faites. Par contre, vous découvrez que la gentille petite épouse a traîné dans les bars pendant la semaine, oui, pendant la semaine où vous étiez en déplacement à Marseille, et vous commencez à parler de bars avec elle, et vous avez cette énorme réaction sur l'électromètre, et là vous vous dites, tiens, tiens, il doit y avoir quelque chose ici. Et en effet, il y a quelque chose là. Et le tonarme ne descendra pas tant que vous n'aurez pas trouvé ce que c'est. Maintenant, à 3 ou 4 reprises, pendant que vous êtes en train de nettoyer tous les deux votre mariage, vous allez sans doute décider que tout est fini et qu'il n'y a pas de raison de continuer parce que c'est impossible, etc., etc. Eh bien, ce qui vous sauvera à chaque fois, c'est de vous dire « Rappelle-toi ce que tu as fait. Gardez fermement cette pensée à l'esprit et tout se terminera bien. » Pour nettoyer un mariage, vous devez établir une communication réciproque. Une communication réciproque fonctionne comme suit. Georges, après avoir émis une communication, attend qu'Agnès lui émette une communication, ce qui met fin au cycle de la communication dans les deux sens. Et nous avons ainsi un cycle de communication entre deux personnes. Donc pour nettoyer un mariage, vous devez établir une communication réciproque. Et une fois cela fait, le succès est assuré. Mais si Mary Sue et moi, avec le peu de difficultés que nous avons eues dans la vie, sommes capables de ne pas nous parler pendant une semaine, ça nous a bien fait rire après. Mais vous allez vous dire, pense un peu au gars à Genève qui va essayer cette technique sans même posséder de certificat professionnel. Vous voyez, il va se lancer comme ça, en lisant simplement les instructions, en n'ayant aucune idée de ce que c'est la patience, aucune formation. Il va être là, les dents serrées. Il ne sait pas donner un commandement, il ne sait pas donner d'accusé de réception. Vous voyez, le gars qui n'a jamais fait une miette de scientologie. Par contre, un auditeur entraîné qui emploierait cette technique pourrait toujours donner le commandement et l'accusé de réception. Bon, peut-être qu'il serait un peu jaune, de visage. Quoi qu'il en soit, je me suis dit, Il va falloir que j'en parle aux gens pendant le congrès parce qu'ils vont essayer de l'appliquer de toute façon. Donc, mieux vaut leur dire la façon correcte de procéder. Et je vais vous la donner maintenant, rapidement. La voici. Si vous pensez pouvoir améliorer votre mariage et que vous n'êtes pas tous les deux des auditeurs formés, ou bien si vous êtes simplement scientologue, je ne cherche pas à fournir de la clientèle aux auditeurs ici, eh bien la façon incorrecte de s'y prendre, c'est d'aller se faire auditer dans son coin. La façon correcte de s'y prendre, si l'on veut se faire auditer sur le mariage, c'est d'avoir les partenaires conjugaux face à face et un électromètre. Sinon, il pourrait y avoir un phénomène de transfert ou des bouleversements ou de la super-compassion, et ça, ça ne doit pas se produire. Vous comprenez ? Donc si le préclair, c'est ainsi qu'on appelle la personne qui se fait auditer, si le préclair arrive et dit qu'il a des problèmes conjugaux, le mieux que vous puissiez faire, c'est dire « Est-ce que vous êtes tous deux disposés à réparer ce mariage, avant que nous n'allions plus loin ?» Et il vous répond « Oui, bien, le mariage, oui, mais ma femme ne veut pas entendre parler de la scientologie. » Vous répondez « Tiens donc, eh bien, tu ferais mieux de l'amener ici, je veux lui montrer comment ça fonctionne à l'électromètre. » Installez-les tous les deux en séance, avec l'électromètre entre eux, et faites-les parler à tour de rôle. Et ils seront en séance. Mais vous ne devriez absolument pas prendre un partenaire conjugal à la fois, l'emmener quelque part dans une pièce d'auditing et l'auditer secrètement. Ce que vous devez faire, c'est les prendre tous les deux par la peau du cou, les asseoir face à face avec un électromètre entre eux, et s'ils ne savent pas s'en servir, c'est vous qui manipulez l'électromètre et qui les auditez. Et quand vous auditez l'un des partenaires, faites que l'autre soit derrière vous. Et ça marche. Mais ne le faites pas en l'absence de l'un des partenaires, si vous voulez vraiment que ce mariage tienne. Bon, après la séance, ils vont probablement s'arracher les yeux, mais c'est mieux que de se quitter. Et c'est mieux que se quitter. Presque tous ceux qui ont été abandonnés vous le diront. Mais on pourrait réparer un mariage même en n'ayant pas la compétence technique suffisante. Personnellement, je dirais, n'hésitez pas à vous lancer, même si vous n'êtes pas un auditeur formé. Allez-y, tentez le coup. Il y a assez de scientologues maintenant qui sont capables de réparer tous les dégâts causés. Bien sûr, ce serait très difficile, mais personnellement, je n'hésiterai pas, je me lancerai. Pas de formation technique, mais en lisant simplement un manuel d'instruction sur l'électromètre, et puis j'essaierai de réparer le mariage de Georgette et d'Edgar. Il est probable que vous vous en tireriez très bien. Mais bien sûr, ce n'est pas un problème pour la plupart des gens ici présents. L'autre solution serait de faire appel au service d'un professionnel pour qu'il les audite tous les deux. Mais il ne fait pas de doute que la meilleure solution serait que le mari et la femme mettent un peu d'argent de côté et qu'ils se rendent dans une école. Et en attendant, ils devraient faire très attention à ne pas faire de bêtises et à savoir ce qu'ils font. Et puis quand ils auraient fini l'école, ils se lanceraient. Cela requerrait une sacrée autodiscipline, mais ce serait la solution parfaite. Et cela s'applique bien sûr aux scientologues. Les non-scientologues devront plus ou moins être remis sur pied par un auditeur professionnel. Maintenant, donner l'un de ces électromètres à des gens qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la scientologie, eh bien c'est mortel. Tout ce qu'ils feront, c'est se démolir mutuellement. Oui, l'un aurait l'électromètre et l'autre ne coopérerait pas. Ils chercheraient probablement à tout se dissimuler. Ils seraient tout le temps en train de penser ce que l'autre a fait, qui a détruit le mariage. Et toutes ces conceptions erronées s'accumuleraient et finiraient par provoquer une explosion. Il se servirait simplement de l'électromètre comme une espèce de détecteur de mensonges. Quel triste jour que celui où cet appareil appelé détecteur de mensonges est tombé entre les mains de la police. En premier lieu, un détecteur de mensonges, ça n'existe pas. Ça détecte uniquement des désaccords, des mésémotions et des irréalités. Une mésémotion, c'est toute émotion désagréable comme l'hostilité, la colère, la peur, le chagrin, l'apathie ou un sentiment de mort. Leur détecteur de mensonges, ça ne détecte pas de mensonges, ça détecte les choses que la personne regrette avoir faites. Mais quel officier de police, non scientologue, admettrait que la personne regrette ce qu'elle a fait? En effet, un officier de police sait ce qui cloche avec les criminels. Les criminels, ce sont des gens qui ne regrettent jamais rien. Oui. Donc vous avez ces officiers de police qui ne savent même pas ce qu'est un criminel. Un criminel, c'est quelqu'un qui agit d'une façon mécanique et qui n'est pas là. Et s'il agit mécaniquement et qu'il n'est pas là, c'est parce qu'il sait qu'il est criminel et qu'il ferait mieux de ne pas participer à la société. Soit dit en passant, le slogan du criminel, c'est « Les machines sont plus fiables que les hommes ». Pour en revenir au mariage, la chose la plus saine à faire pour un couple qui connaît un peu le dating, ce serait de refaire un cours de communication ainsi que les exercices d'entraînement de l'enseignement supérieur, qui sont également appelés « upper indoc ». Il leur faudrait trouver quelqu'un qui enseigne ces deux choses, il leur faudrait faire ces deux choses à fond, jusqu'à ce qu'ils les possèdent parfaitement, puis ils s'extirperaient mutuellement leurs overtes et leurs retenues, et auditeraient la responsabilité sur chacun de ces overtes et sur chacune de ces retenues. Et ce mariage fonctionnerait à nouveau. Oui, clic. Et n'allez pas croire que tout va marcher comme sur des roulettes et qu'il n'y aura pas quelques casseroles qui voleront. Et si vous croyez ça, c'est que vous êtes perfectionniste. N'allez pas croire que vous allez tout réparer en un soir. Parce qu'il faut un peu plus de temps que ça, d'habitude, pour parler en détail de tous ces overtes et de toutes ces retenues. Maintenant, tout cela s'étend à la famille tout entière. Quelle est la chose la plus énervante avec les enfants? C'est le fait que les enfants font des fugues. Ils font des fugues. Ils quittent la maison. Aux États-Unis, ils font régulièrement des fugues pendant leur adolescence, et ça fait si longtemps que l'homme est témoin de cela qu'il pense que c'est une bonne chose. Mais est-ce vraiment une bonne chose? Les gens disent, oui, à 13-14 ans, l'enfant critique évidemment ses parents, c'est tout naturel, c'est ainsi qu'il doit en être. Et puis après, il se détache de plus en plus de ses parents et finit par s'en aller et donner tort à sa famille. C'est la vie. Ah oui. Quelques-unes des meilleures familles que j'ai vues ont été sauvées par des enfants qui n'avaient pas quitté leur famille. Intéressant, non? Vous savez à quel âge vous pouvez mettre un enfant à l'électromètre et lui extirper ses overtes et ses retenues? Je ne peux pas vous dire exactement quel âge, mais vous pouvez les prendre très jeunes. Et si vous prenez un enfant de 5, 6 ou 7 ans, ce sera très facile. Ils sont aussi faciles à auditer que des adultes, à condition de leur donner des séances de dating courtes. Donnez-leur des séances très courtes, formulées dans une langue simple. Ne leur donnez pas de séances avec des mots compliqués. Et respectez toutes les règles de l'auditing. Ne trichez jamais avec eux en leur donnant un auditing du genre « petite claque dans le dos, on bâcle le tout vite fait bien fait, on lui donne un assist par-ci par-là et on ne met jamais fin à la séance. » Un assist, c'est une technique simple, facile à appliquer, qu'on peut administrer à n'importe qui pour l'aider à se remettre plus rapidement d'un accident, d'une petite maladie ou d'un bouleversement. Il faut donner plus de dignité à un enfant. Il arrêtera alors d'essayer de semer la pagaille dans la famille. Maintenant, les ennuis et les agitations que les enfants sont censés faire endurer à toutes les familles n'ont pas grand-chose à voir, en fait, avec la famille. Par exemple, je sais que mes enfants sont récemment devenus moins excités. Ils ont une nourrice qui les traite très bien, une nourrice scientologue, et ils se sont calmés. Bon, ils n'ont jamais été très turbulents et très tumultueux. Ils étaient relativement bruyants. Mais ce sont des enfants très francs, très ouverts, très libres, qui communiquent beaucoup d'eux-mêmes. Et communiquent beaucoup. Et cette nouvelle scientologue, qui vient d'arriver pour s'en occuper, n'a pas spécialement fait preuve d'un bon contrôle ou d'un mauvais contrôle, ni fait quoi que ce soit qui les a énervés. Et ils sont très heureux. Et ils sont devenus si calmes et si coopératifs avec le reste du personnel qu'un ou deux membres du personnel ont dit « Il y a quelque chose qui cloche avec ces enfants. Ils doivent être malades. » Je suis allé voir et je n'ai pas vu la moindre chose qui clochait. Ils parlaient deux fois plus qu'avant, mais ils avaient cessé d'être excités et de casser les pieds à tout le monde. Et évidemment, on a cru qu'ils étaient malades parce qu'ils ne se conduisaient pas comme les enfants sont censés se conduire selon la croyance populaire. Quand les enfants ont trop d'overt et de retenue contre leurs parents, ils leur rendent la vie impossible. Voilà une vérité, une simplicité idiote. Quand les enfants ont trop d'overt et de retenue contre leurs parents, ils rendent la vie impossible à leurs parents. Une vérité toute bête. Et si les parents permettent à leurs enfants d'accumuler autant d'overt et de retenue contre eux, alors ces enfants vont rendre la vie impossible à tout le monde et ils finiront par quitter leur famille, voyez, vers l'âge de 16-17 ans. Ce soi-disant phénomène naturel, quitter la famille, se produira. Nous nous moquons pas mal qu'ils quittent leur famille ou non. Les enfants romains recevaient des postes officiels et se mariaient à l'âge de 14 ou 15 ans, ce qui est très bien. Vous croyez que je plaisante? Pas du tout. L'une des choses les plus vicieuses que vous puissiez faire à un enfant, c'est l'empêcher de faire sa vie. Et je ne dis pas que l'université est une mauvaise chose, je n'ai pas dit ça, c'est simplement que je pense, personnellement, que c'est une mauvaise chose. C'est simplement mon opinion là-dessus. L'université repousse apparemment le mariage de bien des années. Mais il y a tous ces... Il faut attendre pour démarrer dans la vie. Oui, tous ces... Il faut attendre pour démarrer dans la vie. Ça rend les gens complètement irresponsables par rapport à la troisième dynamique. Prenez des gosses de 12, 13 ans. Ils commencent à assumer des responsabilités dans la troisième dynamique. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Et si vous les en empêchez trop longtemps, ils deviennent irresponsables par rapport à la troisième dynamique. Et vous retrouvez avec un gouvernement comme celui que nous avons en ce moment. Donc le mariage consiste en une association de tétans qui n'ont ni overt ni retenue. C'est quelque chose dont on postule l'existence et qu'on continue de créer afin d'assurer la perpétuation et la protection des membres de la famille. C'est un arrangement très simple. En fait, c'est un arrangement très satisfaisant si l'on en préserve la simplicité. Mais ça devient un arrangement très complexe si on ne préserve pas cette simplicité. Maintenant, ce ne sont pas toujours les belles-mères qui détruisent les mariages. Vous pourriez dire qu'il faudrait abattre toutes les belles-mères et les mariages marcheraient bien. Ou bien les femmes devraient toutes avoir le droit de suffrage et le mariage marcherait bien. Ou encore, nous devrions avoir l'émancipation totale et le divorce instantané et tous les mariages marcheraient bien. Toutes ces absurdités ne sont en fait rien d'autre qu'un effort pour avoir un mariage sans jamais vraiment créer de mariage. Aucune de ces choses n'a jamais fait de mariage, vous savez. Le divorce rapide, les préventions contre ceci ou cela. Les Chinois font le contraire. Un couple se marie, mais ce n'est pas vraiment un mariage, parce que l'aîné de la famille du mari est toujours le chef de famille, et la jeune épouse sert toujours la mère de son mari, tout ça c'est très compliqué, ça vous donne tout un tas de règles. Nous nous fichons qu'il y ait des règles, tant qu'il existe une communication libre entre les membres de ce groupe. S'il y a une communication libre entre les membres de ce groupe, l'affinité sera suffisamment élevée pour absorber tous les chocs et tous les coups durs de l'existence. Et la vie vous assène effectivement quelques chocs et quelques coups durs. Et si les individus d'une famille ne sont pas capables de se prendre en main, ces chocs risquent d'être durs, d'une façon ou d'une autre. Mais si les gens sont capables de se prendre en main tout seuls et de coopérer les uns avec les autres, leurs chances de réussite personnelle s'en trouveront améliorées. Et voilà l'une des philosophies sur lesquelles le mariage est basé. Bien sûr, un gosse ne réussirait jamais dans la vie, et aucun d'entre vous n'aurait réussi s'il n'y avait pas eu le mariage tel qu'il existe à l'heure actuelle. À moins d'avoir le pouvoir de faire le mock-up d'un corps, comme ça, instantanément, paf, oui. Eh bien, il vous faut cette relation familiale, géologique, biologique, et la croissance, tout ça, pour que la famille se perpétue. Quand l'État cherche à remplacer la vie de famille par la vie en baraquement, méfiez-vous. Ça veut dire qu'on est en train de rabaisser l'homme à un niveau où il deviendra criminel, où il faudra lui coller des implants pour obtenir quoi que ce soit de lui. Un implant, c'est une méthode vicieuse, douloureuse et violente pour imposer à un être des objectifs artificiels et de faux concepts dans le but de le contrôler et de l'opprimer. Quoi qu'il en soit, un mariage est chose possible. Un mariage, peu importe combien il est tendu, peut être réparé et exister. En outre, un groupe est également chose possible. Il peut y avoir des groupes, mais il ne peut pas y avoir de groupe sans communication réciproque. Et il ne peut y avoir de groupe si les membres de ce groupe ne continuent pas d'en postuler l'existence. Et quand une grande partie de ce groupe s'emploie à dépostuler le groupe ou à postuler sa disparition, comme le font tous ces partis révolutionnaires, alors bien sûr le reste du groupe doit travailler beaucoup plus dur pour remettre le groupe sur pied. À la fin, il en a marre d'essayer de préserver le groupe, et celui-ci se démantèle. Mais si nous voulons vraiment avoir un groupe, il nous faut y travailler. Il nous faut travailler à créer ce groupe. Les individus du groupe doivent tous avoir la conscience propre, la communication doit être libre, il doit y avoir le désir de postuler sans cesse l'existence du groupe. Et c'est ce que nous faisons, et nous avons un groupe. Et que cela s'applique au mariage, ou à une compagnie, ou à un gouvernement, ou à quelque chose d'un peu plus grand, la scientologie, dans le monde, eh bien voilà comment vous faites un groupe. Et j'espère que nous tirerons profit de toutes ces informations. Merci.